France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Poésie ininterrompue, Georges Perec par Bernard Noël. Bien des écrivains, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ont trouvé le chemin du récit pour transmettre l'histoire, telle qu'elle n'avait pas été assumée, racontée par ceux qui l'avaient faite. Toutefois, pour Georges Perec, il ne s'agissait pas d'un non-dit, mais de l'indicible même, de la persécution qui, l'ayant privé de ses parents, le privait aussi d'un accès à lui-même, à son identité et au récit, voire à la langue française dans sa naturalité. Il exprime dans cette émission la joie, la jubilation qu'il éprouva à se donner des contraintes formelles des règles d'écriture. Dans l'usage abandonné de la rhétorique, qui a qualifié la littérature de langue française dans tous les grands genres, Georges Perec a trouvé une issue. Multiplier les œuvres, dont chacune paraît à chaque fois se réinventer, subvertir les modes à partir d'un choix formel. La langue française se recharge de charme, de mystère. On sait, depuis le grand lipogramme de la disparition, texte privé de la voyelle E, combien cela a favorisé l'expression de l'obsession sous-jacente, de la quête, de l'identité, chez Georges Perec.
Georges Perec, vous avez publié des romans, des essais, des poèmes, vous avez tourné deux films, vous jouez au go, vous aimez les puzzles, les mots croisés, vous faites partie de l'Oulipo. J'énumère tout cela non pour marquer des activités différentes, mais au contraire parce qu'on sent à travers toutes un dessin commun, et même une sorte de plan. On dirait que, commençant à écrire, vous avez ouvert une partie qui ne se joue pas seulement à travers un livre, mais qui, dans ceux qui sont déjà écrits, joue déjà ceux qui vont venir. Il y a là, dans cette partie qui met en jeu tout votre travail d'écrivain, et en somme toute votre vie, quelque chose de jamais tenté. C'est un jeu. La littérature est un jeu. Mais l'on dirait qu'en la traitant pour ce qu'elle est, une chose risible, mais grave, vous faites sans cesse monter la mise. D'ordinaire, et en particulier dans le cas de la poésie, on s'imagine qu'il suffit d'investir de la passion, de la sincérité, du souffle. Vous vous contentez de porter à leur extrême les règles, les figures, dites de style ou de rhétorique, en les faisant jouer au lieu de seulement les appliquer. Et au bout de ce qu'on pourrait prendre pour la fabrication la plus détachée, voici que surgissent l'imaginaire, le vif, comme si l'exercice du langage vous donnait tout ce que les autres croient donner au langage. À cet égard, vos deux livres exemplaires sont La disparition et le tout récent Alphabet. Pourrait-on dire à leur propos, et plus généralement à propos de tout ce que vous faites, que vous ne misez que sur le travail et que le travail vous donne tout?
Il y a l'idée d'un programme. Et il y a la première chose, je pense, c'est précisément que l'écriture est un travail. C'est pas un don. Je veux dire, je considère pas ça comme un don, ni comme un... C'est pas quelque chose qui m'est octroyé, c'est quelque chose que je dois aller chercher. On a envie de dire des choses, enfin, simplement. Peut-être même qu'on a envie de développer des idées. Enfin, on s'aperçoit que ça reste complètement revêche, enfin, opaque, qu'il y a quelque chose qu'il faut forcer, qu'il faut aller chercher à travers une rhétorique qui n'existe plus. Je veux dire, il y a un décombre rhétorique sur lequel la littérature a fonctionné, continue de fonctionner, et on se trouve devant... moi, j'avais cette, une sensation de vide, une sensation de... Alors, j'essaye de construire quelque chose à partir de ce vide, de cette sensation d'impossible, en me servant de règles, de structures, de contraintes extrêmement anciennes, les anagrammes dans l'alphabet, finalement ce sont des anagrammes, le lipogramme dans la disparition, le palindrome, etc.
Est-ce que vous pouvez donner des exemples au fond ? Parce que peut-être que palindrome ne dit rien.
Palindrome, c'est une... Léon Émir Cornu d'un roc rime Noël. Enfin, c'est une phrase qui se lit dans les deux sens. Alors, produire un palindrome d'une phrase est relativement facile. Produire un palindrome d'un texte de 6 pages est beaucoup plus compliqué. Ça représente un an de travail. Et c'est... je veux dire, il se passe quelque chose dedans. Enfin, c'est un anagramme, c'est bon, par exemple, dans le mot Sparte, il y a le mot trépas et il y a le mot pâtre. C'est une manière de réorganiser les lettres d'un mot et de produire d'autres mots. Et le lipogramme consiste à se priver d'une lettre. Écrire un texte sans W est facile. Écrire un texte sans E en français est beaucoup plus compliqué. Ça fonctionne comme ça. Écrire un texte sans E, d'abord on pense qu'on n'y arrivera pas du tout.
Mais vous avez écrit un livre de 300 pages sans E qui s'appelle La disparition. Et au fond, je me demande si le lecteur non prévenu s'apercevrait que le E manque.
A noir, un blanc, I roux, U safran, O azur. Nous saurons au jour dit ta vocalisation. A, noir carcan poilu d'un scintillant morpion qui bombinait autour d'un idoral impur, cap obscur. Qui, cristal du brouillard ou du taux, harpon du fjord hautain, roi blanc, frisson d'anis. I, carmin, sans vomi riant ainsi qu'un lys dans la punition d'un courroux, d'un sanglot. U, vibration, rond divin du flot marin, paix du pâti tissu d'animaux, paix du fin sillon qu'un fol savoir au grand fond imprima. Je me suis imposé une discipline temporelle, c'est-à-dire très stricte. J'ai décidé d'écrire tant de lignes par heure et tant d'heures par jour. Et sans aucun plan, sans aucune histoire, simplement la narration est venue, est montée. Je veux dire, j'ai écrit ce livre dans un état de jubilation. Je me sentais comme un maçon. C'est-à-dire comme un... Vous savez, quelqu'un qui pose une brique, qui met du ciment, qui pose une autre brique, et puis chaque geste, ça fait une maison. Et je me sentais comme ça. Je veux dire, le livre montait, sans aucune difficulté. Je veux dire, c'était tellement difficile de faire son petit chemin dans les phrases... que tous les autres systèmes, disons, de censure ou d'inhibition étaient levés. La narration venait, m'était donnée à travers ce travail, à travers cette... c'était la même chose pour Alphabet. Alphabet, j'écrivais, c'est des poèmes qui ont la caractéristique suivante, ce sont des hétérogrammes, c'est-à-dire qu'il y a 11 lettres de base, et on permute ces 11 lettres 11 fois, on obtient donc des 11-1. Qui se servent des 11 mêmes lettres réorganisées. Et c'était... chacun me demandait à peu près une journée de travail. Enfin, une journée... C'est quand les lettres étaient difficiles à utiliser, comme le W, par exemple, ou le Z, ou le X, ou le K, ou le J, c'était plus facile parce qu'il y avait moins de choix. Il y avait, par exemple, parfois, il n'y avait qu'une seule possibilité. Quand au contraire c'était des lettres comme le M ou le D, c'était presque trop facile. Il faut que le texte produit ait une certaine cohérence syntaxique, et le reste vient ou ne vient pas. Je veux dire, pour moi, il y a des textes que je considère comme les plus émouvants que j'ai jamais produits. à travers ce système qui est tellement aride, gratuit, masochiste peut-être. Et j'ai rencontré Ashbery, et John Ashbery était à Paris l'autre jour, et on a dîné ensemble, et je lui ai expliqué le principe, et puis il m'a dit « c'est beaucoup plus difficile d'écrire avec l'inspiration ». L'idée même de poésie était quelque chose qui me faisait très peur. Je veux dire, ça me faisait très peur parce que le temps est fini où on pouvait compter sur ses doigts, hein, jusqu'à 12, pour faire un alexandrin. Bon, alors, d'une certaine manière, je regrette qu'on ne puisse plus compter sur ses doigts. Alors, en faisant des anagrammes, ben, c'est une nouvelle manière de compter jusqu'à 11, jusqu'à 12, jusqu'à 14. Enfin, ça, c'est...
Pourquoi en donner deux versions? Je veux dire, vous donnez sur la même page une version travail et une autre version apparemment plus accessible.
Oui, c'est parce que la version travail est très difficile à lire. Le lecteur ne verrait pas, je veux dire, aurait du mal à extraire les mots parce qu'il manquerait la ponctuation, il manquerait... Bon, j'ai pensé le faire, mais je crois qu'il y a c'est une question de relation dans la page. Je veux dire, comme ce sont des poèmes très courts... Il y a le blanc joue un rôle, enfin je veux dire, c'est pour l'œil, je veux dire. En même temps, je pense qu'il est, dans la mesure où c'est une poésie fabriquée, je veux dire, je ne sais pas du tout péjoratif, il est juste de donner le mode d'emploi. Je veux dire, je ne voudrais pas récupérer. Quelque chose qui serait du en disant mais non c'est une poésie comme une autre, disons, je tiens à montrer comment c'est fait. En plus c'est quelque chose qui est je veux dire, j'ai fait 4 recueils dont Alphabet est le plus important, mais j'en ai fait d'autres plus petits, Ulcération qui est uniquement avec 11 lettres de sur la lettre C où il y a 400 permutations. La clôture, où il y a en plus un joker, enfin, c'est-à-dire comme au Scrabble, il y a une lettre blanche. Et Métaux, que j'ai fait pour accompagner un recueil de gravures de Paolo Boni, où il y a 14 lettres. Enfin là, ce sont des sonnets. C'est-à-dire, j'appelle ça des sonnets parce qu'il y a il y a 14 vers. Et je crois que je vais m'arrêter maintenant. Pour moi, ça fait partie d'une époque en quelque sorte pré-littéraire. Enfin, sauf que il y a une chose, la seule chose, disons, le seul travail conscient qu'il y a eu dans les choses, c'était d'écrire comme Flaubert. C'était une sorte d'exercice d'imitation.
Et les temps de verbe. Bon, ça commence au conditionnel, ça finit au futur.
Au futur. Ça, je crois que ça s'imposait. C'est le sujet qui. Je veux dire, ça commençait comme un rêve et ça se terminait. Je connais rien de plus terrible que l'emploi du futur dans un livre, parce que ça gèle. Alors, commencer au conditionnel et finir au futur, c'était, je crois que c'est le livre, d'évidence. Enfin, je veux dire, c'est quand j'ai trouvé cette forme.
Enfin, mais donc, il y avait une règle qui s'imposait.
Oui, alors... mais c'est pas une règle. Ça, je veux dire, ça n'a pas de caractère de contrainte. Le petit vélo n'a pas de caractère de contrainte non plus. Le petit vélo, c'est... je suivais à ce moment-là le séminaire de Barthes aux études sur la rhétorique et j'avais relevé tous les mots concernant la rhétorique. Et puis après, j'ai décidé de faire une sorte d'index de ces formes et de les repérer dans un texte qui était écrit, je veux dire, d'une manière très relâchée. Le travail commence, c'est-à-dire qu'il prend des formes différentes chaque fois. Je veux dire, il commence avec dans Un homme qui dort, c'est beaucoup plus net. Enfin, Un homme qui dort est un livre qui s'est tendu en quelque sorte entre une phrase de Kafka et une nouvelle de très célèbre maintenant de Melville qui s'appelle Bartleby l'écrivain. Le choix de la deuxième personne, par exemple, les descriptions de rêves, la désynchronisation, enfin, le travail sur la destruction du temps, enfin, on ne sait pas quand ça commence, ni quand. En fait, le livre n'a pas vraiment de commencement, il a déjà commencé. Je ne sais pas non plus comment fonctionne ce programme. Je sais que c'est un programme. Je veux dire, actuellement, j'ai 19 projets qui constituent une sorte de programme de travail pour les années à venir. Alors, il y a dedans, il y a des livres que j'ai commencé il y a 7 ans, que je n'ai pas fini. Et puis, il y a des choses que je n'ai pas faites, mais que j'ai très envie de faire. Par exemple, j'ai envie d'écrire un roman de science-fiction. Je voudrais tout écrire. Je voudrais écrire des romans comme Jules Verne. Je voudrais écrire des romans policiers. Je voudrais écrire des... Je voudrais saturer complètement le champ de l'écriture. Deux des écrivains pour qui j'ai la plus grande passion sont Roussel et Jules Verne. Qui d'ailleurs, enfin, Roussel avait une passion pour Jules Verne. Or en fait, c'est la même chose. Je veux dire, ça ne s'oppose pas du tout sous le prétexte que Jules Verne décrirait des choses réelles. Jules Verne ne fait que mettre les mots du dictionnaire dans un certain ordre. Roussel et Jules Verne ne font que recopier des fragments d'encyclopédie, ne font que...
Mais pourtant, il me semble qu'ils le font justement à l'inverse l'un de l'autre.
Parce qu'on
a l'impression que Jules Verne invente des histoires, enfin au sens où je...
Mais non, ce que fait Jules Verne, ce qui me fascine chez lui, c'est que c'est le seul écrivain, je pense, enfin après Rabelais, qui soit capable de donner pendant 5 pages des noms de poissons sans que ça soit ennuyeux. Enfin, il y a des gens qui trouvent ça très ennuyeux, moi je trouve ça fascinant. Ce sont les mots qui créent cette histoire, qui suscitent l'histoire, ce sont les... Ce qui est intéressant dans Les Enfants du Capitaine Grant, c'est cette idée qui vont se promener tout au long du même parallèle, d'abord, et puis que chaque fois qu'ils vont passer dans un pays, Paganel va réciter le nom de tous les géographes, tous les explorateurs, tous les missionnaires qui sont passés et qui ont découvert telle montagne. Et c'est ça qui fait, je veux dire, l'histoire, la recherche même, enfin c'est seulement... À la fin, quand ça se relie au... C'est-à-dire à la fin de l'île mystérieuse, que le mythe prend toute sa force. Enfin,
on dirait au fond que lui, mais c'est le fait de mettre bout à bout des mots qui produit l'histoire, alors que chez l'autre, ce sont les règles qu'il s'est fixées qui aimantent les mots, si je puis dire. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce sont des démarches dans lesquelles je me reconnais très, très... Enfin, c'est vraiment ce que j'essaye de faire pour mon compte dans des livres très différents. Les uns qui vont être uniquement formalistes, si on peut dire. Les autres qui vont être autobiographiques. Les autres qui vont essayer d'être uniquement des fictions, enfin des romans. Dans tout ça, je cherche une sorte de... C'est pas, enfin, je veux dire, j'arrive pas très bien à le dire. Sur la jointe nuit rose, jalis jour naturel, ton jet, jouant le rire, osant juillet, roi Janus. Le jour naît, il sort jaune, jurant soleil, transi, joué.
Le fait d'être passé par l'Oulipo, ça a apporté quoi dans ce programme?
Je veux dire, le moyen de le... L'Oulipo... L'Oulipo est une association qui groupe des écrivains et des non-écrivains. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de gens qui n'écrivent pas que de gens qui écrivent. Et les gens qui écrivent sont principalement trois. C'est Italo Calvino, Matthews et moi. Benabou n'écrit pas, Keval écrit très peu, enfin, je veux dire, et il n'écrit pas de choses oulipiennes d'ailleurs. Noël Arnaud écrit un essai sur Jarry, mais il ne... Je veux dire, les gens qui font des travaux oulipiens sont relativement peu nombreux, mais en plus, ils avaient tous commencé à travailler avant d'être à l'Oulipo. Je pense que l'Oulipo leur amène... Enfin, c'est un peu comme un pianiste qui fait des exercices. Je veux dire,
est-ce que c'est valable dans les trois langues? Enfin, des trois dont vous avez parlé. Est-ce que ça fonctionne de la même façon?
Ah ben, ils le font. Calvino est à l'Oulipo parce qu'il vit à Paris. Matthews vit en France.
C'est pas une raison.
Calvino fait des choses tout à fait oulipiennes. Le Château des Destins Croisés est un livre typiquement oulipien, enfin, c'est-à-dire avec une contrainte entre le vertical et l'horizontal qui produit, ou des cartes de tarot produisent des histoires. L'Oulipo fonctionne comme un ouvroir, c'est-à-dire, bon, ben, on déjeune et on se communique des informations, des idées. Et c'est pour moi, c'est comme faire des gammes le matin, enfin, ça c'est avant de jouer.
Il y a dans L'homme qui dort une très belle page sur le regard, enfin le regard inévitable, le regard qui vous, enfin son propre regard qui vous regarde, etc. Je me suis demandé quel était le lien finalement avec ces jeux. Ah. Il m'a semblé qu'il y en avait un sans que je réussisse à l'éclaircir.
Les jeux, c'est une chose, c'est très, comment dire, c'est très protecteur. Ça fonctionne comme un alibi, un peu. Je veux dire que dans les cas extrêmes, quand ça devient dangereux, je veux dire, à ce moment-là, les contraintes se dissimulent. Je veux dire, dans W, qui pour moi est un livre, disons, crucial, où je maniais une matière, un dire qui était moi. Enfin, je veux dire, la contrainte devient le livre même, devient la nécessité d'une parole intacte, je veux dire. Je veux dire, j'ai fait sous forme de poème hétérogrammatique un livre qui s'appelle La Clôture et qui concerne la rue où je suis né. C'est là qu'apparaît, pour moi, de la manière la plus éclairante, la relation qu'il y a entre le travail avec les règles et les contraintes, et ce que je cherche à dire. Je veux dire,
vous disiez tout à l'heure que les contraintes levaient la censure.
Oui, mais je crois que c'est une apparence, je veux dire. Lève la censure de l'écriture en tant que, je veux dire, les contraintes créent la jubilation. C'est ça que je veux dire. J'aimerais pouvoir dire, enfin, oser dire quelque chose que Harry Matthews a dit un jour, et je ne sais pas si je peux me l'approprier. Enfin, il me semble que des poèmes comme ceux d'Alphabet, par exemple, constituent pour moi une sorte d'accès direct à l'inconscient. Je veux dire, beaucoup plus que toute écriture automatique, beaucoup plus que toute recherche qui partirait, disons, du signifié. Enfin, bon, c'est le fait de produire des mots à travers ce crible, enfin, à travers ce tamis, ce qui passe.
C'est vrai, il y a d'ailleurs une phrase dans La Disparition que j'avais notée, enfin que j'ai envie de lire comme ça parce que enfin, ce dont vous parliez est peut-être plus facile de l'écrire. Je veux dire, quand on touche un certain point de vibration, tout naquit d'un souhait fou, d'un souhait nul, assouvir jusqu'au bout la fascination du cri vain, sortir du parcours rassurant du mot trop subi, trop confiant, trop commun. N'offrir au signifiant qu'un goulot, qu'un boyau, qu'un chat, si aminci, si fin, si aigu, qu'on y voit aussitôt sa justification. Ainsi surgit l'affirmation s'opposant à l'omission. Ainsi durcit la franchie issue du contraint. Ainsi sourdit l'imagination. Ainsi du plus obscur aboutit-on au plus clair.
C'est un programme. Effectivement, oui, c'est ça.
Quand vous parliez d'un programme tout à l'heure, au fond, vous émettiez plus des désirs qu'un programme. Oui. Je me demandais si, en parlant, au fond, on pouvait toucher quelque chose qui est à la fois joué et à la fois tellement vif qu'il est difficile de le mettre à plat comme ça.
Bien, oui. Je ne sais pas très... Finalement, je ne sais pas si je sais parler de ce que je fais. Je veux dire, je sais que je le fais, je sais que j'y consacre tout le temps que je peux y consacrer, enfin, toute l'énergie. Je sais que j'ai raison. Presque d'une manière paradoxale, parce que j'ai écrit une douzaine de livres en 10 ans, et aucun ne ressemble à l'autre. Et je pense que c'est très bien que justement ces livres soient différents. Et pourtant, ils définissent. Enfin, ils sont comme des pièces d'un puzzle dont il existe une image achevée. L'image achevée, c'est... Je sais, enfin, comment est-ce qu'on peut... C'est peut-être là que je sais qu'il y a une image. Mais je ne... Quand on commence un puzzle, on ne sait pas. On sait que le puzzle s'appelle « La vie et l'œuvre de Georges Perec ». Mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Peut-être que ça sera tout blanc. Peut-être que ça sera... qu'il y aura une petite étoile dans un coin. Il y a encore une autre image de puzzle que je crois que c'est... Elle est de Butor, mais je l'ai tellement utilisée que j'ai fini par croire que c'était de moi. Butor dit que l'écriture... C'est un puzzle dont il manque une pièce. Et les pièces qui existent sont tous les écrivains qui vous entourent, tous ceux qui vous éclairent, qui vous stimulent, etc. Et la pièce manquante qui va achever le puzzle, c'est les livres qu'on fera soi-même. Je veux dire, il y a... comment on peut appeler ça ? Une recherche d'enracinement qui passe par les mots, comme si... Oui. Je ne sais pas très bien comment je peux dire... une manière, disons... je ne sais pas. C'est pas très important d'ailleurs, je veux dire, je ne me sens pas tellement obligé de le chercher, de le savoir. Je veux dire, je pense à cette recherche de racines, enfin, parce que bon, je sens que c'est ce qui était en jeu, disons, dans W, même d'une certaine manière dans les choses. Enfin, bon, et dans la clôture, bon, ils font, etc. Pourquoi exactement ça donne ce goût des manipulations, c'est... Je sais pas vraiment.
Georges Perec a publié Les choses, lettre nouvelle, Julliard, 1965. Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour, lettre nouvelle, de Noël, 1966. Un homme qui dort, lettre nouvelle, de Noël, 1967. La disparition. Lettre nouvelle de Noël, 1969. Les revenantes, idée fixe, Julliard, 1970. La boutique obscure, cause commune, Gontier, 1973. W, ou le souvenir d'enfance, lettre nouvelle de Noël, 1975. La clôture, 1975, hors commerce. Ulcération, bibliothèque oulipienne, 1974. Espèce d'espace, aux éditions Galilée, collection L'Espace Critique, 1974. Dix machines, réclame, 1970. Ouvrages en collaboration. Petit traité invitant à l'art subtil d'Hugo, Bourgois, 1969. Oulipo, création, recréation, récréation, idée, Gallimard, 1973. Vient de paraître aux éditions Galilée, Alphabet. Apparaître en 1977, Métaux. Traduction. Harry Matthews, Les verts champs de moutarde de l'Afghanistan. Lettre nouvelle de Noël. Harry Matthews, Le naufrage du stade Odradek. Apparaître en 1977.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 20 février 1977.